Pharaon n'a pas plus indiqué à Yosef le véritable rêve, mais Yosef va quand même expliquer le rêve à la satisfaction de Pharaon. Il faut expliquer quel était le problème de Pharaon. Le problème de Pharaon, c'est le Nil. Le Nil est une divinité en Égypte. Le Nil, c'est le nourricier de l'Égypte. L'Égypte, elle survit grâce aux crues du Nil. Et Pharao, a priori, il administre ce que produit le Nil. Le Nil produit, et puis Pharao, il gère ça plus ou moins bien. Et le problème de Pharao, c'est que dans son rêve, il s'est vu au-dessus du Nil. Donc en fait, ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, c'est être justement une divinité supérieure à la divinité Nil. Mais il n'ose même pas dire qu'il a rêvé ça. Il n'ose pas le dire. Il faut bien comprendre, le Pharao ici dont on parle, à ce moment-là, c'est pas le Pharao qui tient toute l'Égypte. C'est Yosef qui va faire de lui le maître de toute l'Égypte. Jusque-là, il y a encore une multitude de petits roitelets ou personnages assez puissants qui ont des choses à dire. C'est vrai qu'il est, roi d'Égypte, il est peut-être empereur d'Égypte, mais il n'est pas du tout libre de faire ce qu'il veut. Et il n'ose pas même dire qu'il rêve d'être au-dessus du Nil. Ils sont tous très, très attentifs à une chose, à une remarque ou à un récit pareil. Ils se tromperont pas. Donc pour eux, c'est presque un problème de lèse divinité, quoi, quelque part, de la part de Pharao, de vouloir prendre le pouvoir au-dessus du Nil. Et du coup, il se passe une chose absolument étrange, presque incompréhensible. Pharao a appelé Yosef pour interpréter le rêve. Donc il lui explique le rêve. Cette année d'abondance, cette année de famine. Et la famine sera telle qu'on n'aura plus aucune trace de l'abondance. Alors maintenant, pourquoi le rêve est répété deux fois? C'est parce que Hachem est en train de te dire qu'il faut prendre des mesures rapides parce que ça arrive tout de suite, là. Les choses sont en train d'arriver. Bon, et normalement, Yosef, il aurait dû se taire à partir de ce moment-là. Il a interprété le rêve de Pharao, point barre. Et Yosef fait quelque chose de tout à fait inimaginable. Il faut s'imaginer, si on se représente la cour d'un roi de France, etc., il va lui donner des conseils maintenant. Il continue. Ve'ata, ire paro ish navon ve'chacham vishiteu al eretz mitzrayim. Maintenant que Paro choisisse un homme intelligent, quelqu'un qui comprend les choses, et il faut l'installer, il faut lui donner la haute main sur l'Égypte. Que Pharao fasse les choses, qu'il nomme des gens, des agents sur tout le territoire, et que, en fait, il va falloir prélever un cinquième des productions de l'Égypte durant les années d'abondance. Bon, il prélève 20%. Pendant les 7 années d'abondance, qui va mettre de côté. Et vous imaginez, il donne des conseils à Pharao. Je veux dire, il y en a qui ont perdu la tête pour moins que ça. C'est pas de quel droit tu te mets on t'a appelé, on t'a demandé d'interpréter le rêve, on t'a pas demandé des conseils. Et Yosef, il ose, comme si c'était la suite du rêve. Parce que c'est effectivement, d'une certaine manière, la suite du rêve. Ce rêve-là, si tu veux que je te l'interprète, ce rêve, il vient te dire, prends des mesures. Et on va ramener toute cette nourriture de toutes les bonnes années. Alors voilà, tout ça, ça sera sous la gestion de Paro. On mettra dans les villes des grands silos, etc., avec une super surveillance. Donc cette nourriture là, des 5 pendant les 7 ans, 20% toutes les années, eh bien voilà, ça va permettre de supporter les années de famine. La chose a bien, le pasouk dit, Vaïta vadavar beine pharo ou beine kolavadav. Tout le monde a été séduit par l'idée. Ça convient à tout le monde. Alors du coup, Paro dit à ses serviteurs, est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-là? Asher Ruach Elohim bo, il a l'esprit divin est sur lui, en lui. Et on voit pas, la Torah ne nous donne pas la réaction, mais visiblement tout le monde était d'accord. Alors Paro dit à Yosef, voilà, avec ce qu'Elohim t'a donné toute cette information, il t'a dit tout cela. Il n'y a pas d'homme, Navon v'chacham kamocha. Cet homme que tu as décrit, qu'il faut mettre au sommet de l'Égypte, qui doit gérer tout ça, ben ça doit être, ça ne peut être que toi. Atatiye albeti. Tu seras sur ma maison, en quelque sorte. Et tout mon peuple t'obéira. Il n'y aura au-dessus de toi que le trône. Et avec ça, il a résolu. Maintenant, Paro peut dire, en fait, ce qu'il avait voulu. Le problème du Nil, ça se gère avec un intendant. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Il a réussi. Il est une divinité plus élevée, plus haute, plus importante que le Nil. Le Nil, les productions du Nil, ça va même être géré par quelqu'un qui est un ancien esclave, un étranger, etc. Rien, personne. Non, quelqu'un de très intelligent, mais il n'est pas de chez nous, quoi. C'est pas un noble. C'est aussi une garantie que il n'aurait pas pu nommer qui que ce soit d'Égyptien à cette place-là. Un Égyptien à cette place-là, il lui aurait pris la place. Il aurait tous les. Yosef va avoir tous les pouvoirs d'Égypte. Tout. Paro, maintenant, il fait de la relaxation. Je sais pas ce qu'il fait. Mais rien, il fait plus rien. Il ne s'occupe de rien, que de, peut-être de, je sais pas, de son harem, s'il a un harem, je sais pas de quoi il s'occupe. Il a plus, c'est tout, il est une super divinité. Et alors, évidemment, comme toujours, comme au moment de Purim avec Aman, Vayasar Paro et Tabato, il enlève son sceau. Et il le lui donne. Et donc, Yosef va sceller comme l'Avdil, mais comme Aman scellait les décrets qu'il avait pris, lui, mais ils étaient scellés, marqués, à Achashverosh. Et maintenant, Yosef, il va signer Paro. C'est ça, avoir le sceau. Il va signer Paro. Il a la signature. C'est lui qui prend les décrets et il les signe au nom de Paro. Ensuite, il lui a déguisé selon la mode de l'époque. Il a mis un collier doré, etc. Il a mis dans le deuxième char impérial. Il a crié Avrer devant lui. Il est le maître de l'Égypte. Et Paro lui dit, Ani Paro, je suis Paro. Mi baladecha lo yarim ish et yado vet raglo bechol eretz Mitzrayim. Personne ne bougera la main ou le pied dans toute l'Égypte sans ton ordre. Alors il l'a nommé Tzofnat Paner, on ne sait pas si c'est un nom égyptien ou etc. Et il lui a donné Osnat bat Potiphéra, Cohen On, Leisha. Il lui a donné une femme. Et Vayetse Yosef à l'Eretz Mitzrayim. Donc il est apparu, je sais pas où, dans le palais, où il a fait le tour de, je sais pas, de la capitale. Donc Yosef, voilà. Il passe à travers toute l'Égypte et il organise. Pendant cette année d'abondance, il organise toute la collecte, la récolte. Et donc tout ça, ça devient propriété de Paro. Et comme vous savez, dans la suite, au fur et à mesure, les gens n'ont plus à manger. Donc ils viennent chercher à manger chez Paro. Et bon, il faut qu'ils payent. Et donc, tous les terrains deviennent propriété de Paro. Il n'y a guère que les terrains du clergé qui restent leur propriété. Et au bout d'un moment, les gens se vendent même comme esclaves, finalement, à Paro. On n'a plus de quoi manger. Prends-nous comme esclaves, comme ça tu nous nourriras. Donc, pourquoi il fait tout ça pour Paro? Il fait tout ça pour Paro parce que Paro doit devenir un interlocuteur de Moshe Rabbeinu. Il doit devenir un interlocuteur d'Hachem, si on peut parler comme ça. Il est le maître de l'Égypte. Et il parle au nom de l'Égypte, il va négocier, c'est-à-dire que tout va être négocié ultimement. Bon, il va y avoir, les paroles ultérieures vont mettre les Bnei Israël en esclavage, etc. Mais ultimement, bon, c'est toujours avec Paro qu'il faut la discuter. La sortie d'Égypte aussi, elle se fera avec l'accord explicite de Paro. Qui a installé, qui a donné tout ce pouvoir à Paro? C'est Yosef. Yosef, il fabrique une Égypte à la grande, enfin, qui a le format voulu pour jouer le rôle qu'elle doit jouer dans la sortie d'Égypte. Alors, il lui a donné, on a vu, il lui a donné une épouse, alors ça, c'est tout un problème. D'accord, il lui donne une fille qui est la fille qui est présentée comme étant la fille de Potiphéra. Donc c'est une fille adoptive de Madame Potiphar, et cette Osnat, dit le Srazal, le Midrash, cette Osnat, c'est la fille de Dina. C'est la fille que Dina a eue quand elle a été violée par Shrem. Elle était enceinte, elle a eu un enfant. Et cet enfant, c'est Osnat. Alors, donc finalement, Yosef, en épousant Osnat, il va épouser sa nièce. Le Midrash dit que quand elle est née, Yaakov n'a pas voulu laisser cette enfant du viol, et il l'a envoyé en Égypte. Bon, elle a été adoptée par Madame Potiphar. Et c'est parce que elle va épouser Yosef, avec lequel elle aura Ephraim et Menaché, que Madame Potiphar a vu par astrologie, elle a vu qu'elle allait avoir une descendance avec Yosef. C'est ce qui l'a conforté pour vouloir absolument avoir des rapports avec Yosef. Elle voulait, elle pensait que voilà, il faut. Elle voit qu'elle a des raisons. Seulement, elle n'a pas vu. Elle a vu loin, mais elle n'a pas vu tout près. Elle n'a pas vu que c'était pas elle, mais sa fille adoptive va avoir cette descendance. Et on sait, par la suite, on va voir qu'il l'a épousée, c'est Paro qui la lui a donnée, mais il a fait des kiddushin avec elle, il lui a donné une ktouba. Cette ktouba-là, il va la montrer à Yaakov. Quand Yaakov va venir en Égypte bien plus tard, et qui va demander, mais qui c'est ces enfants en vérité, là, des enfants d'où? Alors Yosef lui a montré la ktouba qu'il avait écrite. Sa femme. Il a montré qu'il avait fait les choses, que ce n'était pas une égyptienne, parce que sinon ses enfants étaient égyptiens. Alors la Torah, ici, dans la Parashat Miketz, elle va nous raconter comment ça s'est dégradé, comment la situation, comment la famine a fait son travail sur l'Égypte. Mais entre-temps, elle nous dit tout de suite que dans le pasuk Gimel, le Nun, pardon, pasuk Nun du verset Mem Aleph, du chapitre Mem Aleph, 41-50, où Yosef Yulad Shnei Vanim. Yosef a eu deux fils, le Terem Tavo Shnat Arav, Asher Yaldalo, Osnat Bat Potiphera, Kohenon. Donc cette Osnat, la fille de Potiphera, qui est la femme que Paro lui a donnée, en fait. Elle lui a donné deux enfants, deux garçons, qui sont nés avant les années de famine. Alors Yosef va leur donner des noms. Toujours important de savoir comment on nomme les enfants. On va revoir cette année comment Moshe Rabbeinu a nommé ses deux fils. Yosef, il nomme ses deux fils. Vaikra Yosef et Shem Abechor Menaché. Yosef nomme son fils aîné Menaché. D'où vient ce nom là? Ki Nashani Elokim et Kol Amali et Kol Beitavi. Rashi dit, la traduction elle-même est assez parlante. Vous voyez qu'il y avait un fil là-dessus. C'est pas cela. Donc il a dit, il a nommé, Akadosh Baruch Hu m'a fait oublier en quelque sorte. Il fait oublier tous mes efforts, toute ma souffrance. Il m'a fait même oublier la maison de mon père. Et le second, il l'a nommé Ephraim, qui Ephraim Elokim Beretzoni. Kadosh Baruch Hu m'a fait fructifier dans le pays de ma souffrance.
Raph, excusez-moi, pour le Kinachani Elohim, Elohim, je crois qu'il y a un Sforno sur place. Hein.
J'aurais vu quelque chose, mais... Ah non, oui, c'est ça, mais ce n'était pas ce que je croyais. Bon, le Sforno, il dit effectivement que ce Nachani Elohim, qui m'a fait oublier, c'est-à-dire Nishkechu Atzarot Arishonot. Ça, à d'autres endroits, ça veut dire j'ai oublié tout ce que j'ai souffert, j'ai même oublié la maison de mon père. Donc, quelque part, ici, Yosef dit, d'un côté, enfin, il a l'air de dire, je recommence une page complètement blanche, oublier la maison de mon père, quelque part, tout cette, pendant toutes les années, il a, semble-t-il, il voulait bien rentrer chez lui, mais il pouvait pas. Il dit, ben, finalement, avec ses enfants, avec ce mariage, avec cette situation, c'est-à-dire quelque part, le rêve se réalisait en fait. Le rêve de devenir roi, en fait, se réalisait. Il s'est pas encore complètement réalisé par rapport à ses frères. Il faudra attendre qu'ils viennent. Enfin bon, c'est pratiquement tout est là. Bon, alors c'est tout un problème de savoir qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire qu'il a oublié la maison de son père. Au contraire, après, il va dire à son père que, voilà, j'ai rien oublié, j'ai les enfants, voilà, c'est les enfants que Elohim m'a donné, etc. Et là aussi, c'est pas du tout qu'il reconnaît pas que c'est un cadeau divin, tout ce qui lui arrive. Mais quelque part, c'est comme s'il disait, bon, maintenant, je suis en train de voler de mes propres ailes. J'ai une histoire à moi. Pas simplement la prolongation de l'histoire de mon père. Dans ce pays où j'attendais rien, je suis devenu moi-même, je produis, Donc il a deux enfants. Il faut rappeler la chose suivante. Yosef, quand il était tellement critique à l'égard de ses frères, il pensait d'une certaine manière que son père avait échoué. Bon, parce que son père avait échoué à produire des 12 tribus parfaites, quoi. Pour lui, ils n'étaient pas parfaits, pas suffisamment parfaits. Et donc, quelque part, comme si son père avait un peu échoué. Et d'une certaine manière, les rêves lui donnaient un peu raison, puisque dans le rêve, même son père se prosternait devant lui. Donc, quelque part, c'est comme si son père reconnaissait que c'était lui. Donc, il pensait... D'une certaine façon, il pensait être lui le troisième patriarche. Comme s'il y avait eu une génération pour rien. Quand le triplet, ce serait Avraham, Yitzhak, Yosef. Alors, il a eu une première leçon. C'était pas comme ça. En fait, la leçon est assez complète. Vous savez bien que dans l'histoire de Madame Potiphar, il y a une discussion dans la Gemara. Madame Potiphar, ce jour-là, il y avait une fête. On a toute une discussion pour savoir de quelle fête il s'agissait. Est-ce que c'est une fête liée au Nil, etc. Bref, Madame Potiphar, ce jour-là, elle a donné congé à tout le monde. Elle voulait que la maison soit vide. Donc, quand Yosef est venu, c'est marqué, Yosef, il est venu faire son travail. Alors, il y a des, les textes qui disent Yosef s'est demandé en réalité, quand il a vu l'insistance de Madame Potiphar, il s'est demandé est-ce que Madame Potiphar n'est pas un marchepied en quelque sorte pour arriver. Cette femme, elle a sûrement des entrées dans la noblesse égyptienne, etc. Son mari était très puissant, elle aussi probablement. Peut-être qu'il faut passer par elle pour arriver. Peut-être ma trajectoire, elle passe par elle. Donc, il y avait un problème. Est-ce que je cède ou est-ce que je cède pas? Alors, il y en a qui disent qu'en fait, ce jour-là, il avait décidé de céder. Mais il en a été empêché par l'image de son père. Au moment où il a cédé, il a produit l'image de son père et il n'a pas pu continuer. Hazal dit qu'il était allé tellement loin qu'en vérité, on dit qu'il y a de la semence qui est sortie de ses 10 doigts. Donc il était arrivé à l'extrémité de l'extrémité. Et Yosef, en fait, il devait avoir 12 fils. Donc, il y avait une possibilité que ce soit lui, le patriarche, qui produise 12 tribus. Mais à ce moment-là, quand il a vu l'image de son père et qu'il n'a pas pu aller au-delà, il a perdu 10 fils. Ces semences qui sortaient sous ses ongles, les 10 doigts, il a perdu 10 de ses fils, possibilité de fils. Il n'a eu que ces deux-là, Ephraïm et Ménaché, enfin, dans l'ordre, c'est Ménaché et Ephraïm d'abord. C'est ça qui s'est passé. Donc, il sait qu'il n'est pas, ça n'abolit pas son père, mais quelque part, il a une trajectoire à lui ici, visiblement. C'est pas jusqu'où elle peut aller, cette trajectoire. Bien plus tard, ses frères vont effectivement se prosterner devant lui parce qu'ils sont prosternés devant le vice-roi d'Égypte pour avoir à manger. Mais quand Yosef a fait descendre, c'est un scoop, je vous le dis, ça viendra seulement plus tard, mais quand Yosef a fait descendre Yaakov en Égypte, il a voulu que son père se prosterne devant lui. Il a voulu réaliser le rêve. Et bon, il s'est dit, si son père vient, il va le reconnaître. Alors il s'est déguisé à l'égyptienne. Il s'est déguisé en vice-roi d'Égypte. Et il s'est dit, mon père, il est vieux, il ne connaît pas. Il va me prendre pour Paro. Et il va se prosterner devant moi. Pensant se prosterner devant Paro, mais de facto, il se sera prosterné devant lui. Et Yaakov est arrivé, il ne s'est pas prosterné devant lui. Ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi il ne s'est pas prosterné. En tout cas, ça n'a pas marché. Donc, prendre la place de son père, ça n'a pas marché. Par contre, Yosef va se trouver dans une situation, un peu une drôle de situation. Parce que son père va choisir Ephraïm et Ménaché, qui sont ses petits-enfants, il va les mettre à la même hauteur que ses propres enfants. C'est-à-dire, il va considérer Yosef comme étant un Bechor, en ayant droit à la double part. Et la double part, c'est qu'il a deux parts dans les 12 tribus. Il y a une tribu d'Ephraïm et une tribu de Ménaché. Il n'y a plus de tribu de Yosef. Mais il est remplacé par deux. Donc il a une double part. C'est une chose absolument terrible. Yosef, Yaakov lui a dit, tes enfants, ils sont à moi. Je prends les enfants. Je les traite comme mes propres enfants. bon, on peut dire c'est sympa, c'est magnifique. Il les a. Mais d'un autre côté, il a dit à Yosef, je prends les enfants. Si tu as d'autres enfants, bon, ça sera pour toi. Mais pour l'instant, ces deux-là, ils sont à moi. Et il les a installés comme deux tribus. En plus, il va, comme vous savez bien, il va changer l'ordre. Bien que Menaché soit le premier-né, il va mettre Ephraïm avant Menaché. D'ailleurs, quand on parle toujours dans les brachot, d'ailleurs, qui est Ephraïm ou qui est Menaché. Comme Ephraïm et Menaché. On devrait dire que Menaché est Ephraïm, d'après l'ordre. Mais c'est l'ordre que Yaakov a eu. Vous savez, Yaakov, quand il va croiser les mains pour qu'il va venir ses petits-enfants, là. Donc, il va faire passer Ephraïm. Donc, c'est-à-dire, il va bouleverser l'ordre de naissance. Il enlève à Menaché un titre de Bechor, quelque part. Il le donne à Ephraïm. Donc, ces deux enfants que Yosef a, il dit Ifrani. Avec Ephraïm, je suis devenu, c'est la Piria Verivia, ça veut dire fructifié. Mais Yaakov va venir, il dit, ses enfants, ils sont à moi. Je les prends. C'est une question sur laquelle je pense qu'on reviendra. Mais c'est un peu surprenant quand même. Donc, la Torah, elle continue en nous enseignant, enfin, en décrivant la famine. Et puis, la famine, elle arrive jusqu'en Canaan. Chapitre 42. Vayar Yaakov, qui est Shever Bemitzraim. Yaakov, qui est confronté à la famine, en fait, il voit que. Il voit qu'il y a à manger en Égypte. Alors Rashi dit, Vayar Yaakov qui yesh shever bemitzrayim. Yaakov a vu. Alors Rashi demande, Umechandra, d'où est-ce qu'il a vu ça? Lui, il est en Canaan, et il voit qu'il y a de quoi manger en Égypte. Alors, l'aura et la shama. Plus bas, il va dire, iné shamati. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ici, ra? Rashi dit, ra basbaklaria, shel kodesh. Il a vu, c'est une vision grâce au kodesh. Vision sainte, en fait. Shadayen yesh lo shever bemitzrayim, lo haita nevoa mamash. C'est pas une vraie prophétie. L'audio de Ferouche chez Yosef. Il a vu qu'il avait lui-même quelque chose. C'est un shever en Mitzrayim. Il a compris quelque chose. J'ai encore une ressource, en fait, en Égypte. Et Rachid dit, c'est pas une prophétie complète, parce que sinon il aurait dû voir que c'était Yosef qui donnait. Il y a quelque chose, il y a comme une espèce de, le Targum, mon cousin, il dit, Iboura, Mizdaben de Mitzray. Iboura. Comme s'il y avait une espèce de grossesse possible, quelque chose à lui qui a une ressource, en fait. C'est comme ça. Il a une ressource encore en Égypte. Et du coup, après, donc, d'abord, on nous dit qu'il a vu ça. Et ensuite, à ses fils, il dit, mais bon, ne pas vous traîner en quelque sorte. J'ai vu. Alors maintenant, il leur dit, j'ai entendu. Yeshever b'Mitzrayim. Descendez en Égypte. Veshivrou lanu misham. Shever, shivrou lanu. Ça veut dire, voilà. Portez-nous à manger, quoi. Là-bas. Venichye velonamut. Ça, on vivra et on ne va pas mourir. Alors, sur le lama titraou, c'est la lachon Ria. Alors, Rashi dit, pourquoi est-ce que vous vous montrez devant les Bnei Ishmael et les Bnei Esav qui ilou atem sveim? Vous faites comme si vous étiez rassasiés. Ki beota sha'a adayin ayalaem tvoa. La Gemara dit qu'à ce moment-là, ils avaient encore de quoi manger. Ifshuto. Lama titraou, lama iyou. Akol mistaklim bachem, umatmiim bachem, shenatem mevakshim lachem, ochel, veterem sheikale mashe biyetchem. Tout le monde vous voit et personne ne comprend exactement pourquoi vous ne prenez pas des mesures, pourquoi vous n'achetez pas du blé, vous ne leur demandez pas du blé avant de plus en avoir. Rachid dit, mais puis Acherim Shamati, et d'autres, la bouche d'autres, j'ai entendu, chez Oulachon Kuchusha, Namati ou Kuchim Brav, pourquoi est-ce que vous devenez maigrichon pour cette famine? Redou Shama, descendez là-bas. Redou. Vous entendez? Redou, ça doit vous dire quelque chose, non? C'est quoi la gématria de Redou? Additionnez trois chiffres. Ça peut se faire, je pense. Additionnez 200 et 4 et 6. Ça fait 210. 210, ça devrait faire tilt. Rashi dit, Lo amar lahem le chou, il n'aura pas dit allez. Pourquoi? Parce que c'est un remez. Le mataim ve'eser shanim, c'est nishtabdu le mitzraim ke minyan redou. 210, c'est le temps d'esclavage, la durée de l'esclavage en Égypte. Donc c'est un remez, une allusion à la période d'esclavage. Il faut aller là-bas, mais quelque part, ça a déjà à voir avec le problème de l'esclavage. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est en train de continuer, ce dont on a déjà un peu parlé, tout ce qui est en train de se faire là, peut-être de façon consciente ou inconsciente, c'est la réalisation de ce qui a été dit à Abraham Avinu au moment de Brit Ben Abtarim, que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger, donc, etc. Donc voilà, il y a un remède cette fois-ci. Et alors maintenant, le pasouk dit, le pasouk dit, Vayardou Ache Yosef Asara Lishbor Bar Bemitzraim. Ils sont descendus les frères de Yosef, 10. Donc pour amener de la nourriture à partir de l'Égypte. Mais là, tout à coup, ils sont présentés comme étant Aché Yosef, les 10 frères de Yosef. Binyamin va rester, et Yosef est, comme vous savez, en Égypte. Donc il reste 10 frères. Donc on nous dit ici, ils descendent en tant que frères de Yosef. Rachidi, on aurait dû dire Bnei Yaakov, non? Mais la Mel Shayou Mitrartim Bemechirato. L'Égypte, le nom Égypte a fait tilt quand même. Ils savent bien qu'ils ont vendu Yosef comme esclave en Égypte. Donc maintenant, quand ils vont en Égypte, quelque part au fond de leur tête, il y a. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas réparer ce qu'on a fait tordu, là? Natnu libam litnaeg imo be'achva. Dans leur tête, dans leur cœur, ils ont décidé de le considérer comme un frère. Je vous rappelle, je sais pas si on en avait moins parlé, mais en réalité, quand Yosef est allé sur l'ordre de son père, voir ce qui se passait avec ses frères à Shrem, il les a pas trouvés. Et là-bas, il y avait, vous vous souvenez, il y avait un Ish, c'est un Malach, Malach Gabriel, qui lui a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, et Achai ani mevakesh. Je recherche mes frères. Et alors l'autre lui a répondu, ils sont partis de là, misé. C'est pas une réponse. Si je te demande où ils sont, c'est bien que parce qu'ils sont pas là où je les ai attendus. Je m'attendais à les rencontrer. Mais il nous répond, ils sont plus là. Oui, bon, c'est vrai, d'accord, j'ai compris. S'ils étaient là, je les aurais vus. Mais il a donné un remez. Misé, zé, c'est 12. Ça veut dire, il lui a dit, ils veulent te sortir de la fratrie. Ils ne te considèrent plus comme leur frère. Ils vont te tuer. Donc il lui a tout annoncé. Yosef a quand même continué. Il est allé chercher ses frères. Il était là-bas et donc l'histoire, vous la connaissez. Et donc là, ils avaient décidé de l'exclure de la fratrie. Maintenant, tout à coup, Rashi ramène, ils ont l'intention de le réintégrer dans la fratrie. L'ivdoto, bechol makom, chez Yifsekou Aleh. Ils sont prêts à le racheter, quel que soit le prix qu'on va leur demander. C'est pour ça, comme vous savez certainement, qu'ils vont entrer en Égypte chacun par une autre porte. Il y a 10 portes d'entrée en Égypte, 10 checkpoints en Égypte pour entrer. Chacun va entrer par un autre parce qu'ils veulent essayer de ratisser aussi large que possible. S'il est esclave là-bas, on va bien le trouver. Et quand Yosef leur dit, vous êtes des meraglim, parce que la preuve, c'est que vous êtes rentrés chacun par une porte. Alors, ils lui disent pas clairement, mais en fait, c'est bien ce que... Oui, c'est ça. On n'est pas venu explorer le pays pour le prendre, mais on est venu explorer le pays pour récupérer Yosef. Voilà, je suis obligé de m'arrêter là, pour des raisons que vous pouvez peut-être pas comprendre.